Le pressing du jour avec Omblin Roche et Paul Lassen avant de retrouver nos amis. D'abord un coup d'œil au une de vos journaux. On saura ce soir, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France. On ne va pas vous le cacher, hein. C'est le grand titre à la une un peu partout. C'est à 20h, les annonces d'Emmanuel Macron. Un choix de photo similaire chez Libé, hein. Tandis que le Parisien montre le président Macron en train de mettre son masque. Eh bien à Libération, on a choisi le même geste, mais pas le même homme, avec Jean Castex, le Premier ministre. Le monsieur reconfinement annonce Libération. L'Opinion aborde l'aspect plus politique au cœur de la War Room, littéralement la chambre de guerre d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas qu'une image, car les décisions ont été annoncées par le président aux équipes ministérielles depuis le bunker souterrain de la place Beauvau. Et ça, c'est aussi ce que vous racontera Louis de Raguenel dans nos journaux ce matin. Un peu d'air enfin avec l'équipe, hein, qui revient évidemment sur la triste défaite de l'OM au Vélodrome. 3-0 hier contre Manchester City. Voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Alors Omblin, vous nous parlez d'un sujet grave, c'est un sujet lourd mais qui est important. Le récit à lire dans Le Parisien d'une femme et de son long parcours pour dénoncer un viol.
Oui, de nombreuses jeunes filles vont se reconnaître dans l'histoire de Jeanne. Elle a 12 ans et elle est abusée par un homme de 24 ans, son aîné. Elle va mettre 20 ans à porter plainte. Cela commence par des vacances en 1999 dans un décor de carte postale sur un bateau dans les eaux turquoises au large du Panama. Des vacances avec son père, sa compagne et un ami de son père, le capitaine du voilier. Jeanne raconte comment cet homme de 36 ans adopte au départ un comportement qui la gêne, comme se coller à elle. Elle a 12 ans. C'est important de le dire quand même, de le rappeler. Il exerce sur elle petit à petit une emprise malsaine. Il joue le rôle du confident, gagne sa confiance, sa sympathie. Puis à l'abri des regards, la nuit, lui demande dans sa cabine des fellations. Sans contrainte physique, dit-elle, elle se remet en question. Y a-t-il dans son attitude une forme de consentement? Mais peut-on parler de consentement lorsqu'on est une jeune fille de 12 ans? Honteuse, lorsqu'elle rentre chez elle, elle n'en parle ni à sa mère, ni à personne. Elle enfouit ce secret au fond d'elle, écrit seulement quelques mots sur un carnet. Toute sa vie d'adulte, sa vie intime, sa vie sociale est abîmée par ce qu'elle a subi. Un psychiatre l'encourage à porter plainte et c'est la discussion avec une collègue victime de viol qui la décide. Elle dépose une plainte en avril 2019, donc 20 ans après les faits. Une plainte qui prend la forme d'une libération. L'homme est arrêté quelques mois plus tard, conteste les faits. Un juge estime que les indices sont suffisamment graves et concordants. La procédure est en cours, elle s'annonce longue. Jeanne attend aujourd'hui d'être entendue. Voilà, c'est le long cheminement d'une femme, d'une jeune femme, pour dénoncer un viol dans aujourd'hui en France.
On entend souvent des gens demander mais pourquoi cette personne n'a pas porté plainte plus tôt, n'en a pas parlé plus tôt. Mais on comprend pourquoi en lisant c'est Le Parisien ce matin. Merci Omblin. Alors quant à moi, j'ai un peu triché, j'ai pas pris un article. J'ai choisi un magazine entier et je vous invite à vous plonger dans le nouveau Philosophie Magazine. Alors je vous rassure, on va pas uniquement parler de la critique de la raison pure de Kant ou des grands textes de Hegel, non.
Ah, c'est dommage.
Oui, c'est dommage.
Je suis venu pour ça.
Je sais, mais vous inquiétez pas, je vous ai pris des exemplaires quand même de ces livres-là. La couverture, alors elle est presque prophétique, c'est un plat de pâtes sur fond blanc avec une citation « Mes pâtes ont le goût de mes mails ». Alors ça paraît bizarre comme ça, mais en fait Philomag a enquêté sur la fusion entre le travail et la vie personnelle. Et c'est plutôt bien senti, hein, vu la période. On apprend plein de choses dans la perspective d'un reconfinement. Par exemple, en France, les 34-44 ans disposent en moyenne de 37 mètres carrés par personne à la maison. Alors clairement, ils ne sont pas parisiens. C'est presque le double chez les seniors. Et puis le magazine donne la parole à ceux qui télétravaillent, aux philosophes qui réfléchissent sur la question. Un télétravail qui creuse les inégalités, apprend-on. J'ai beaucoup aimé aussi ce titre d'article. Et si mon patron payait mon loyer avec le télétravail? Et oui, la question peut se poser, c'est provocateur. On apprend également avec des architectes, hein, que la disparition du bureau, du lieu de travail qui est différent du lieu domestique, eh bien, elle est dans l'air du temps depuis déjà quelques années. On appelle ça le flex office, être un peu partout chez soi, être un peu partout au bureau. Mais du coup, est-ce qu'on peut s'arrêter ou choisir vraiment sa place? C'est la question. Et puis, ce confinement qui pourrait avoir une autre conséquence avec les architectes, hein, on a redécouvert à quel point il était important d'avoir des grandes fenêtres pour être un petit peu connecté, lié à la vie extérieure, à la vie publique. Et d'ailleurs, je crois que Jimmy Mohamed dans le 7-9 nous en parlera aussi, parce que des grandes fenêtres, c'est bien pour la lumière et ça lutte contre la dépression. Voilà, c'est à lire tout ça dans Philosophie Magazine. Paul, entre deux textes de Hegel, parlons des dindes. Oui. Alors, je ne pensais pas dire ça un jour, mais des dindes de Noël qui cette année sont plus petites.
Oui, et si à cause du Covid, c'était des dindes plus petites dans nos assiettes? Le magazine Science et Avenir se pose la question et nous emmène dans l'exploitation de Mark Chilcot dans le sud de l'Angleterre. Sur place, des bêtes dodues, nous dit le journaliste, mais bien moins que les années précédentes. précédente. Ah. Les dindes atteignent 5 à 6 kilos, la moitié du poids des mâles d'habitude consommés et un tiers des énormes bêtes qui se vendent dans les supermarchés. Selon l'éleveur, c'est finalement largement bien assez pour des convives sous le régime de la règle des 6 fixant la limite du nombre de personnes qui peuvent se rassembler en Angleterre. Et ce n'est pas la seule adaptation faite par Mark Chilcott. Là où chaque année, il produisait environ 1500 bêtes, elles ne sont plus que 1200 à 2 mois défaite. Au printemps, il a tout anticipé quand la pandémie s'est installée. Il a anticipé les restrictions sur le nombre de personnes qui pourraient se réunir en intérieur. Mmh. Il a anticipé la deuxième vague et comment dire qu'il a eu du nez parce que d'autres n'ont pas misé sur la bonne dinde, espérant un assouplissement des restrictions pour les fêtes. Eux n'ont pas anticipé et risquent de se retrouver du coup avec des volailles sur les bras. Ça pourrait aussi être le cas de nos agriculteurs en France. Le casse-tête des volaillers pour Noël, c'est-à-dire dans Science et Avenir.
Rideau sur le pressing. Merci Paul, c'était passionnant. Merci à tous les deux.